3. La vie à l'abri, la vie souterraine. Avant les bombardements, les premières mesures prises par les autorités civiles consistaient à donner à la population toutes les instructions et les recommandations indispensables pour un bon usage des abris. Ces instructions étaient diffusées à la radio et dans des tracts distribués dans les rues, dans les magasins, les usines, les bars et autres lieux de divertissement. En outre, le gouverneur et le conseil de défense passive publièrent des affiches et des édits rappelant les règles à respecter, parmi lesquelles l'interdiction expresse de passer la nuit dans les abris, une règle que, vers la fin de la guerre et au gré des bombardements incessants, de nombreuses personnes ne respectèrent pas, car elles préféraient dormir dans les abris pour rester en sécurité. Les comités de quartier contribuaient à toutes ces tâches. Le bruit des sirènes retentissant du haut de El Fadri était donc le signal d'alarme avant un bombardement. Toute la population se dirigeait alors rapidement vers le refuge le plus proche, même si, très souvent, les gens attendaient d'écouter le bruit des avions pour bien s'assurer que ce n'était pas une fausse alerte. C'est pourquoi il y avait parfois foule dans les bouches d'accès aux abris, lorsque les gens se dépêchaient, la peur et les précipitations provoquant des chutes. Pour remédier à ce genre de situation, un système de gardiennage et de surveillance fut mis en place. À l'intérieur, les gens se sentaient plus en sécurité, mais ils devaient lutter contre le froid, l'humidité et l'obscurité. Ces abris ressemblaient à de grandes maisons. Les gens venaient souvent avec des couvertures pour s'asseoir ou bien se protéger du froid et de l'humidité. Ils transportaient aussi leurs lampes à huile, des boules de coton imprégnées d'huile ou encore des creusolets, des bougies qui fonctionnaient à l'huile ou enfin des bougies pour s'éclairer. Certaines personnes prenaient des matelas et des hamacs et même des animaux. Des personnes malades transportées sur des matelas, des lits et des fauteuils roulants étaient également accueillis. Malgré la peur, certains enfants jouaient. Ils fabriquaient notamment des petites balles de boue. Il était courant qu'on accroche un bateau en bois autour du cou des enfants afin qu'ils puissent le mordre pendant les bombardements. Cela pouvait les empêcher de devenir sourds sous le bruit des déflagrations. Dans l'abri, les gens restaient assis sur les bancs latéraux jusqu'à ce qu'ils entendent à nouveau la sirène annonçant la fin du bombardement. Parfois, lorsque les impacts tombaient, tout près que la panique s'emparait de tout le monde, on entendait quelqu'un crier « corps à terre ». Les moments d'attente étaient remplis de silence partagé, de peur et aussi souvent de solidarité. Parmi la population civile, les bombardements ont généré de la terreur, de l'insécurité, du découragement, de la faim et de la fatigue, mais aussi de l'indignation et du courage.
Le câlin que j'ai reçu de mon grand-père, quand il nous a retrouvés, a fait disparaître la moitié de ma peur. L'autre moitié, je l'ai gardée au fond de moi pendant plus de 60 ans. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais pu entendre la sirène d'une usine, d'une ambulance ou d'une voiture de police sans avoir la chair de poule.